Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin Julie, comment l'Europe peut-elle se passer du pétrole russe?
Oui, la Russie était jusque-là son deuxième fournisseur après la région du Moyen-Orient. Le pétrole russe représentait 20% de ses importations, 16% de sa consommation. Mais les 27 qui cherchent à apporter un coup fatal à la machine de guerre du Kremlin pour affaiblir encore ses positions en Ukraine ont décidé avant-hier d'interdire immédiatement plus des deux tiers des importations de pétrole russe, de s'en passer d'ici la fin de l'année à 90%. La Hongrie, enclavée et très dépendante, a obtenu une exemption temporaire, tout comme la République tchèque et la Slovaquie. Comment l'Union européenne va traduire concrètement, techniquement, cet engagement et comment compte-t-elle le compenser? Bonjour Francis Perrin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé au Policy Center for the New South à Rabat et directeur de recherche à l'IRIS. Alors, interdire immédiatement plus des deux tiers des importations de pétrole russe, ça se traduit comment concrètement? Et peut-être dès hier d'ailleurs, est-ce que des bateaux, des pétroliers russes sont restés à quai avec leur chargement ou d'autres ont fait demi-tour?
Peut-être pas hier. Évidemment, le mot immédiatement veut dire ce qu'il veut dire. Hein. Ça veut dire maintenant, à partir du moment où la décision du Conseil européen a été prise. Ensuite, il est évident que comme cette décision d'embargo presque total sur le pétrole russe était anticipé depuis quelque temps. Cela fait des semaines que l'on en parle à Bruxelles et dans les compagnies, dans les grandes capitales européennes. Il est évident que du côté russe, certaines précautions ont été prises.
Je profite de votre lapsus, vous avez parlé de compagnie plutôt que de capital, mais c'est vrai que il y a les relations entre États, la décision d'ordre diplomatique et unilatéral de mettre fin à ces échanges, mais il y a aussi les liens économiques, en l'occurrence entre grandes compagnies, entre entreprises. Les entreprises pétrolières russes et européennes donc ont rompu les liens, ont mis fin au contrat. Ça se passe comme ça à chaque fois.
Alors, l'un des intérêts du pétrole par rapport au gaz naturel, autre sujet très délicat pour l'Union européenne dans ses relations énergétiques avec la Russie, c'est que le pétrole, on est surtout sur des relations de court terme. Alors que pour le gaz naturel, on est surtout sur des relations de long terme. Surtout ne veut pas dire donc à 100%, mais ça veut dire principalement. Et il est donc plus facile de sortir, évidemment, de relations de court terme que de sortir de contrats à long terme qui peuvent encore avoir une validité juridique pendant plusieurs années. C'est l'une des raisons, pas la seule, qui fait que pour l'instant, dans le réexamen de ses relations énergétiques avec la Russie, l'Union européenne a décidé premièrement d'arrêter le charbon, ensuite, deuxième étape, celle dont nous parlons aujourd'hui, le pétrole et les produits pétroliers, et pour l'instant le gaz reste lié à une perspective de moyen terme, 2027, même si les pressions sont très fortes sur l'Union européenne pour qu'elle accélère également son calendrier pour le gaz, mais là ce serait beaucoup plus compliqué que pour le pétrole, et déjà pour le pétrole, évidemment, ce n'est pas simple.
Alors pour l'instant, ce sont donc les deux tiers des importations de pétrole russe qui sont interdites par l'Union européenne, donc les importations qui se font principalement par bateau. Le tiers restant, par où est-il acheminé? Combien d'oléoducs desservent l'Europe depuis la Russie?
C'est notamment la France qui a fait cette proposition de se concentrer dans un premier temps sur les importations pétrolières russes par la voie maritime, donc par des navires qu'on appelle des tankers. Au départ, l'idée était de cesser complètement, d'ici la fin 2022, toutes les importations pétrolières venant de Russie, donc également celles acheminées par oléoduc ou pipeline. Sauf que pour certains pays européens, enclavés, c'est-à-dire n'ayant aucun accès à la mer, si vous leur dites il faut arrêter très bientôt, demain, parce que fin 2022, c'est quasiment demain, toute importation pétrolière venant de Russie, et qu'ils n'ont pas de façade maritime, ils savent évidemment que leurs possibilités de remplacement, de substitution, sont beaucoup plus délicates que pour des pays, par exemple le nôtre, la France, et d'autres pays, qui ont une façade maritime, qui ont des ports pétroliers, et qui peuvent donc faire venir du pétrole et des produits raffinés d'autres origines que la Russie. Alors pour ces arrivées pétrolières russes par oléoduc, c'est le fameux oléoduc Droujba qui a en fait deux branches. Une branche alimente la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. et une autre branche dessert l'Allemagne et la Pologne. Et là, nous avons quelque chose qui peut paraître assez curieux. La branche nord de cet oléoduc qui dessert l'Allemagne et la Pologne, ces deux pays ont dit « nous allons, nous, arrêter les importations pétrolières russes via cet oléoduc ». Et par conséquent, nous allons complètement arrêter d'importer du pétrole russe. Par contre, les autres pays, desservis par la branche sud, Hongrie, Slovaquie, République tchèque, ont dit « nous avons besoin d'un délai supplémentaire, nous ne pouvons pas, dès maintenant, arrêter complètement d'importer du pétrole par la Russie », d'où cette exemption pour l'oléoduc Droujba. Mais deux pays, Allemagne et Pologne, qui auraient pu bénéficier de cette exemption, ont dit, eh bien, nous allons nous en passer. Et par conséquent, le total, le résultat des courses, si je puis dire, c'est qu'à la fin 2022, l'Union européenne se passera d'environ 90% des importations pétrolières russes, calculées par rapport au niveau d'avant, bien sûr, la guerre avec l'Ukraine, donc d'avant le 24 février 2022.
Et alors là, de façon à nouveau très technique, que ce soit cet oléoduc Droujba, long de 4000 km, qui part du sud-est de la Russie, qui va donc jusqu'en Allemagne et en Pologne, mais ces deux pays, comme vous venez de le dire, ne veulent plus s'en servir. Donc comment on coupe une route d'oléoduc? Comment on coupe un flux? Ce flux-là, cette branche qui va jusqu'à l'Allemagne et la Pologne? Et à l'inverse, comment est-ce que techniquement, là encore une fois, on augmente les capacités des autres oléoducs qui importent du pétrole non russe?
Alors, pour votre première question, ça ne pose pas de problème, justement parce qu'il y a deux branches dans cet oléoduc. Et donc, il y en a une qui alimente l'Allemagne et la Pologne. L'Allemagne et la Pologne disent aux Européens et à la Russie, donc par conséquent, nous ne voulons plus de votre pétrole. Évidemment, la Russie ne va pas continuer à envoyer du pétrole vers des pays qui n'en veulent plus et qui, par conséquent, ne le paieront plus. Donc ça, c'est très simple techniquement. S'il y avait une seule branche, évidemment, ce serait un petit peu plus compliqué, avec des pays sur le parcours, certains disant oui, encore pendant un certain temps, certains disant non. Mais là, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Pour le reste, évidemment, il faut penser à des solutions de remplacement pour les pays, notamment les pays enclavés. Il y a en fait donc quatre pays qui vont avoir un délai un peu plus important que la fin 2022. Les trois que vous avez cités, donc Hongrie, Slovaquie, République tchèque. Et puis il y a aussi le cas de la Bulgarie, qui est un cas différent. Mais la Bulgarie a une raffinerie qui a été conçue, ça remonte évidemment à l'Union soviétique, qui a été conçue pour importer et traiter du pétrole russe. Et il faut donc transformer cette raffinerie pour qu'elle puisse traiter d'autres pétroles que le pétrole russe. En effet, les raffineries ont une certaine configuration technique. Elles sont faites, elles sont conçues, elles ont été construites pour traiter un certain nombre de qualités de pétrole, parce qu'il n'y a pas le pétrole dans le monde, il y a des pétroles avec des différences importantes en termes physico-chimiques, en termes de densité, en termes de qualité. Et certaines raffineries n'ont pas la capacité de traiter diverses qualités de pétrole. Donc ça implique des travaux de transformation, ça implique une aide européenne, c'est aussi le cas pour partie de la Hongrie. Donc là, cela repose sur une solidarité européenne, sur des garanties européennes. L'accord politique donc a été adopté par le Conseil européen. Bien sûr, tout accord politique de cette nature et de cette importance suppose ensuite une mise en œuvre opérationnelle qui va venir de la Commission européenne. Mais au moment où nous parlons, parce que la décision vient d'être prise par le Conseil, on ne connaît pas encore tous les détails, et détails entre guillemets, parce que ce sont des choses extrêmement importantes quand on veut réussir la mise en œuvre d'une orientation politique. Et ces aspects opérationnels devront bien sûr être finalisés par la Commission, les États membres et bien sûr les compagnies pétrolières.
Comment l'Europe peut-elle se passer du pétrole russe? C'est la question des enjeux internationaux ce matin, dont l'invité est le chercheur Francis Perrin.
Alors Francis Perrin, avant d'évoquer les autres, les pays vers lesquels l'Europe va vouloir se fournir davantage dans les prochains mois et les prochaines années, est-ce qu'on peut s'assurer que les oléoducs que l'on va continuer à faire fonctionner ne transportent pas du tout de pétrole russe, même par le jeu des achats et reventes comme pour le gaz? Parce que par exemple, le gaz que l'Union européenne fournissait à l'Ukraine avant la guerre provenait certes de différents fournisseurs, fournisseurs, mais en fait, il s'agissait en grande majorité de gaz russe passé par Nord Stream, arrivé de Russie vers l'Allemagne, descendu jusqu'en République tchèque, il a traversé la Slovaquie pour arriver en Ukraine. Est-ce que c'est le cas aussi pour le pétrole ?
Alors, on sait très bien d'où viennent les pétroles que nous importons, parce que, justement, le pétrole, même si on dit souvent le pétrole, et moi-même je le dis, en fait, c'est un abus de langage. Il faudrait dire les pétroles. Il y a, de par le monde, différents pétroles, avec des différences de densité, et ça, c'est des choses qui se mesurent, évidemment, qui sont bien connues dans l'industrie pétrolière, avec des différences de qualité, telle teneur en soufre, plus ou moins importante, plus ou moins, etc., des teneurs dans différents, des mercaptans, etc.
Donc,
il y a une carte des pétroles, qui sont très bien connues, évidemment, des compagnies pétrolières à travers le monde, et on peut parfaitement reconnaître tel ou tel pétrole et ne pas le confondre avec tel autre. Donc ça, ce n'est pas un problème sur le plan technique. Le problème, c'est véritablement la décision politique de l'Union européenne d'ici la fin 2022 de se priver de 90% des importations pétrolières russes et derrière les aspects opérationnels mis au point par les États concernés, ceux qui ont encore des exemptions, la Commission européenne, les compagnies pétrolières et une solidarité européenne pour s'assurer que les pays qui vont renoncer au pétrole russe puissent avoir des garanties d'approvisionnement si les choses tournaient mal pour ces pays, parce que il faut bien reconnaître que ce n'est pas simple, c'est moins compliqué que pour le gaz, c'est pour ça que pour l'instant le gaz on préfère ne pas y toucher, laisser le problème pour 2027, mais c'est pas parce que c'est moins compliqué que pour le gaz que ce n'est pas compliqué, ça l'est évidemment.
Et c'est pour ça que la Hongrie demande 800 millions d'euros sur 4 ans pour adapter ses raffineries justement pour ne plus avoir à traiter de pétrole russe. Peut-être en quelques mots, Francis Perron, arrive à la fin de cet entretien. Donc, aller chercher du pétrole où il faut distinguer entre le brut et les produits raffinés. L'or noir, le brut, où est-ce que l'Europe va aller le chercher ?
Alors, un premier élément, c'est qu'on aura moins besoin de pétrole en 2022. Pourquoi ? La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a un impact négatif sur la production pétrolière mondiale via la Russie. La production pétrolière russe a commencé à baisser et va continuer à baisser, notamment sous l'effet des sanctions occidentales. Donc on se dit moins de pétrole sur le marché, par conséquent on va vers une crise, ce qui n'est pas impossible. Mais en même temps, la guerre en Ukraine a pour conséquence de ralentir la croissance économique mondiale. Et s'il y a moins de croissance, on aura besoin de moins de pétrole que ce que l'on prévoyait avant la guerre en Ukraine. Donc, on espère que, avec ces besoins moindres en pétrole, avec des livraisons supplémentaires venant des États-Unis, venant de pays comme le Canada, comme le Brésil, comme le Guyana, le Moyen-Orient, l'Afrique, et la solidarité européenne, des financements européens, l'Union européenne devrait pouvoir se passer à la fin 2022, du pétrole russe à hauteur de 90%. Il y a bien sûr une dose de pari, hein, il ne faut pas se le cacher dans ces décisions politiques.
Merci.
Mais en termes pétroliers, ce n'est certainement pas mission impossible dans le contexte du marché pétrolier mondial de 2022. Très difficile, mais pas impossible.
Merci Francis Perron. C'est sûr que ça fait très loin de faire venir le pétrole du Canada ou des États-Unis par exemple. On verra aussi si c'est une occasion pour ces pays d'amorcer ou d'accélérer leur transition énergétique. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup. Les enjeux, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux. Et il y aura aussi des enjeux internationaux à 6h45 demain avec vous, Julie Gacon.
France Culture. L'esprit d'ouverture.